Hervé Latsouze, bonjour.
Bonjour.
Quand vous êtes arrivé à la tête de ce département de l'ONU en octobre 2011, il y avait quelque 110 000 casques bleus déployés dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 120 000. Est-ce le signe que le monde va de plus en plus mal ?
Oh, je crois que oui, nous avons à faire face toujours à une succession de conflits complexes, notamment en Afrique où sont déployés 80% de nos personnels. Mais dans le même temps, je dois signaler qu'il y a quand même des opérations qui marchent bien. Nous sommes en train de fermer en ce moment la mission en Côte d'Ivoire parce que le job a été fait. Et nous allons fermer dans l'année qui vient, mettons, nos missions au Libéria et en Haïti. Voilà, ça a été un succès.
Le travail des Nations Unies a été endeuillé ces derniers jours par la découverte des corps de deux experts des Nations Unis au Kassaï central. Quelle est votre réaction ?
Bah d'abord de consternation, et on fait évidemment enquête pour savoir ce qui s'est passé, mais c'est l'illustration des tensions considérables qui se sont faites jour au cours des derniers mois dans cette région centrale de la RDC.
Est-ce qu'on sait dans quelles circonstances ont été tués Michael Sharp et Zaïda Catalan ?
Non, on a seulement identifié les corps, mais comme je vous le disais, l'enquête est en cours.
Et justement, cette enquête, qui va la mener ?
Nos investigateurs, et puis sans doute aussi les enquêteurs nationaux des pays respectifs. Il s'agissait d'un Américain et d'une Suédoise, donc je pense que les polices de ces deux pays sont impliquées également.
Le 18 mars, 7 soldats de l'armée congolaise ont été arrêtés et inculpés par la justice militaire du Congo-Kinshasa. Tout cela à la suite de la diffusion d'une vidéo accablante pour les forces de l'ordre dans cette province du Kassaï central. Est-ce que cela suffit à vos yeux ou pas ?
Accablante, vous avez raison d'utiliser ce mot. Bah, je crois que d'abord il faut vérifier que ces gens, si leur culpabilité est bien établie, vont être effectivement poursuivis et condamnés pénalement. Mais c'est vrai que ça illustre le fait que malgré de gros efforts pour former les forces de sécurité congolaises, il y a encore du travail à faire. Et il faut effectivement qu'un exemple soit fait, parce que c'est inadmissible.
Faut-il une commission d'enquête internationale ?
Ça, je ne suis pas informé d'une intention particulière à cet égard.
Et même après la mort de deux experts de l'ONU, vous pensez qu'une commission d'enquête internationale n'est pas nécessaire sur tous les événements tragiques qui se passent au Kassaï central ?
Non, je vous dis, nous faisons une enquête pour établir les faits. Après, il appartiendra aux organes appropriés, y compris au Conseil de sécurité, s'ils le souhaitent, de prendre une telle décision. Car en fait, il s'agissait d'experts qui travaillaient pour le comité des sanctions, qui est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité. Donc ce sera au Conseil de sécurité de se prononcer sur ce point.
Et quel est votre point de vue ?
Oui, moi je pense que ça pourrait être effectivement très utile. Ça ne les ramènera pas malheureusement à la vie, mais il faut que les gens comprennent qu'on ne s'en prend pas impunément à des fonctionnaires internationaux.
Le 28 mars, Hervé Latsouze, vous avez demandé que soit nommé un Premier ministre issu de l'opposition, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, mais le pouvoir et l'opposition s'opposent sur le mode de désignation de ce Premier ministre. Qui a raison ?
Écoutez, il y avait un accord pour justement remplacer le Premier ministre. Je crois, on comprend que le Premier ministre sortant ne veut pas s'en aller, et puis il y a un problème pour l'identification du successeur. Moi, ce que je me contente de dire, c'est qu'il ne faut pas que ça dure, parce que c'est une situation instable et qui, encore une fois, génère des tensions.
Au Soudan du Sud, il y a de plus en plus de massacres. Peut-on parler aujourd'hui de nettoyage ethnique au détriment des nuaires de l'opposant Riek Machar ?
Il y a incontestablement une polarisation croissante des groupes ethniques au Sud-Soudan. Le risque d'un génocide contre tel ou tel groupe, d'ailleurs, ne peut pas être exclu. La situation est en fait abominable. Il y a des combats dans plusieurs parties du pays. Le flot des réfugiés s'est accru au cours des derniers mois, notamment en direction de l'Ouganda. Moi, je suis tenté de résumer la situation au Sud-Soudan comme celle de l'exemple du crash parfait d'un avion au décollage. Quand un avion s'écrase, on peut incriminer soit le pilote, soit la conception de l'avion. Dans le cas précis, ce sont les deux facteurs qui expliquent cette situation épouvantable.
Quand vous parlez de la défaillance du pilote, voulez-vous dire que le président Salva Kiir n'est pas à la hauteur de la situation ?
Je veux dire tous les dirigeants politiques du Sud-Soudan, le gouvernement comme l'opposition, qui règlent leurs comptes entre eux en montrant bien peu de préoccupation pour les souffrances terribles que ressent leur population.
Malgré la famine, le gouvernement du Sud-Soudan consacre plus de la moitié de son budget à acheter des armes. Le refus du Conseil de sécurité de voter un embargo sur les ventes d'armes à ce pays, est-ce que ce n'est pas un échec pour le secrétariat général des Nations Unies ?
Bah, écoutez, c'est d'abord un échec du Conseil de sécurité lui-même, parce que ne pas arriver à obtenir le nombre de voix voulues pour décider un embargo qui reste absolument nécessaire, et c'était la position de l'ancien secrétaire général, ça reste la nôtre, il faudra bien qu'à un moment donné, on dise que ça ça suffit.
Ce sont les Russes et les Chinois qui ont bloqué ?
C'était une série de pays qui n'ont pas voté, tout simplement, qui se sont abstenus.
Vous êtes impliqué personnellement, monsieur l'ambassadeur, et on sent que vous avez des regrets à ce sujet.
Ben oui, comment ne pas en éprouver ? Un pays qui est déjà aussi pauvre, qui consacre ces quelques ressources qui lui restent, plutôt qu'à aider ces gens qui souffrent, à acheter des hélicoptères de combat, non, c'est pas défendable.
Au Nord-Mali, 2 ans après l'accord d'Alger, plusieurs grandes villes comme Tombouctou et Taoudenit sont toujours sans autorité intérimaire. Est-ce que ce n'est pas le signe que cet accord d'Alger ne marche pas ?
Moi, je préfère voir ce qui s'est fait, c'est-à-dire que les gouvernements intérimaires, il y en a maintenant à Gao, il y en a à Kidal, Tombouctou apparemment s'est encore remis, mais Taoudenit devrait se faire. Le regret que j'éprouve, c'est que ce processus a été beaucoup trop long à être mis en œuvre. On a perdu beaucoup de temps. Vous savez que les accords d'Alger prévoyaient une période de transition de 24 mois. On va être à 24 mois au mois de juin. Et donc, ça a été mon message l'autre jour au gouvernement et aux autres acteurs maliens. Vous avez assez perdu de temps, maintenant il faut avancer. Alors, ce qui est bien, bon signe, c'est que se réunit en ce moment et depuis quelques jours la conférence d'entente nationale qui avait été promise depuis longtemps par le président Keïta. Ce qui est bien aussi, c'est que maintenant on a commencé à déployer sur le terrain des patrouilles conjointes qui associent l'armée malienne et des représentants des groupes armés signataires. Donc ça, c'est important parce que ça montre aux populations du Nord que la sécurisation, la stabilisation commence à être mise en œuvre.
Alors, vous parlez de ces patrouilles conjointes, ces fameuses patrouilles mixtes. Y a-t-il encore des volontaires après le terrible attentat du 18 janvier dernier à Gao ?
Mais oui, il y a toujours des volontaires, et heureusement. C'est vrai que cet attentat a été épouvantable, ça fait 50 morts. Mais pour autant, il faut avancer, et c'est ce qu'on fait.
Le mois dernier, les principaux chefs djihadistes se sont regroupés physiquement devant une caméra vidéo. C'était dans le Nord Mali, sous la houlette d'Iyad Agrali. Est-ce que ce n'est pas un défi qu'ils vous ont lancé ?
C'est sans doute un défi. C'est aussi un signal qu'en fait, ils veulent adresser pas seulement au Mali, mais en fait à toute la région. Parce qu'en réalité, la menace qu'ils font peser, elle s'étend à l'ensemble de la bande sahélienne.
Quand vous êtes arrivé à la tête de ce département, il y a 5 ans et demi, la guerre était circonscrite au Nord Mali. Aujourd'hui, elle s'étend au centre du pays. Est-ce que ce n'est pas très préoccupant ?
C'est préoccupant. C'est vrai que les djihadistes ont fait avancer leur ligne, effectivement, dans la région de Mopti, notamment, dans le centre. Non, je crois que ces gens conservent leur agenda. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous travaillons maintenant activement avec les pays du G5 Sahel pour coordonner des opérations, notamment dans les régions frontalières. La Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad aussi, travaillent avec le Mali pour essayer de réaliser des opérations de tenaille, à la fois pour parvenir à coincer certains groupes armés et aussi pour essayer de lutter contre le trafic de drogue qui est un des ressorts aussi de la crise malienne.
114 casques bleus tués depuis le début de l'opération MINUSMA au Mali. C'est un terrible bilan. Est-ce que les djihadistes ne risquent pas de gagner la guerre d'usure ?
Écoutez, je crois que le Conseil de sécurité souhaite que le travail se poursuive. C'est un travail de longue haleine, mais qui implique surtout que l'État malien se rétablisse dans toutes ses prérogatives de souveraineté. Et donc, l'un des objectifs, c'est aussi que les forces de sécurité maliennes soient pleinement déployées dans le nord du pays et puissent assumer, le moment venu, elles-mêmes, les tâches de sécurisation.
Vous manquez d'hélicoptères, vous manquez de blindés anti-mines. Est-ce que, vu le terrible bilan, plusieurs pays refusent d'envoyer des contingents ? Est-ce que vous n'êtes pas sous-équipé ?
On est sous-équipé, c'est vrai. Il nous manque des hélicoptères, en effet. Il nous manque au total près d'une centaine de blindés. Donc, nous ne ménageons aucun effort pour essayer de trouver les pays qui pourraient nous aider à combler ce déficit. Et nous essayons d'être créatifs. Il faut trouver des solutions pragmatiques.
C'est une rude tâche pour votre successeur, Jean-Pierre Lacroix.
Mais la tâche n'est pas facile, c'est vrai. Je le reconnais bien volontiers.
Hervé Latsous, merci.